CFORadio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, co-animée par Alain Martier et Richard Fremder, en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFORadio.tv. Vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreuses et nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous savez que vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CFO-TV. À mes côtés pour co-animer cette émission, Jean-Philippe Boringer, directeur général du groupe JPA, présent dans 80 pays. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Richard.
Et Charles Vatine, sales manager chez EPSA. Bonjour Charles.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous recevons Marie Porcher, CFO pôle bâtiment France de Mathieu Barre. Bonjour Marie.
Bonjour.
Alors vous êtes nantaise, vous avez un DUT de gestion, mais vous bifurquez pour aller en école d'ingénieur informatique. Pourquoi ?
Parce que j'étais très curieuse des cours d'informatique que j'avais à l'IUT et je pensais que c'était mon avenir. Et quand je suis entrée dans une salle remplie de programmeurs de jeux vidéo, j'ai compris que ça n'était pas le cas.
Voilà. Et d'hommes, exclusivement d'hommes, j'imagine.
Je travaille dans le bâtiment, donc ouais, comment vous évidemment. Dire que pour le coup, je n'ai pas changé d'orientation.
C'est clair. Et alors, vous aimez, vous, les contre-pieds, puisque vous commencez votre carrière comme institutrice. Ça, c'est quand même pas
pendant, cool. Pendant une année scolaire, oui, effectivement, j'ai découvert les joies du remplacement en classe primaire et maternelle, ce qui a éteint ma vocation assez rapidement, je dois le reconnaître.
C'est difficile, hein, c'est un métier beaucoup plus dur qu'on croit. Et ensuite, vous vous occupez de la gestion et la finance d'un foyer d'accueil de SDF.
Oui.
C'est pas courant non plus comme parcours.
Bah, j'ai choisi la finance pour un tas de raisons, mais pas par vocation. Et j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour les autres. Et je trouvais que c'était une bonne façon d'allier les deux. Et ça a été une expérience à 25 ans qui était très enrichissante humainement.
Ouais, je comprends. Ensuite, vous entrez dans le BTP pour plus en sortir finalement. Hein, c'est ce que vous disiez à l'instant. Chez Vinci, vous y entrez comme contrôleur de gestion. Vous en sortez comme DAF. Pas mal. Vous avez beaucoup appris, j'imagine.
Oui, beaucoup appris, vécu beaucoup d'aventures diverses et variées, travaillé dans tous les métiers du bâtiment, vécu beaucoup de réorganisations, de fusions, d'acquisitions, de toutes les aventures qu'un DAF peut connaître. Donc ça a été une expérience extrêmement riche pendant plus de 15 ans.
Et enfin, en 2020, vous entrez chez De Mathieu Barre. Alors, question traditionnelle dans cette émission, qu'est-ce que c'est que cette entreprise pour ceux qui ne connaîtraient pas ?
Alors, De Mathieu Barre est une ETI qui est née il y a 160 ans, a fêté les 160 ans cette année, qui est née en Moselle, à côté de Metz, et qui s'est étendue, qui réalisait essentiellement des travaux de génie civil jusqu'à il y a une vingtaine d'années, qui s'est diversifiée dans les activités de bâtiment, qui s'est diversifiée aussi un petit peu à l'international, alors pas sur un territoire très large, on est quand même sur le Canada, sur l'Allemagne, le Luxembourg, voilà. Et puis on a développé il y a une dizaine d'années aussi les activités de promotion immobilière, qui nous permettent d'offrir à nos clients un panel assez diversifié. Donc voilà.
Jean-Philippe.
Oui, j'ai une première question sur qu'est-ce que vous êtes venu chercher dans une entreprise à taille plus modeste que Vinci ? C'est le défi de la fonction de façon plus transversale ? C'est une vision plus globale de la fonction ?
Pas forcément une vision plus globale de la fonction, peut-être une implication plus forte dans l'avenir de l'entreprise ou le sentiment de le vivre plus et dans la stratégie de l'entreprise. Chez Vinci, on peut être assez éloigné de la stratégie du groupe. J'imagine. Chez De Mathieu et Barre, on est plus en contact direct avec le directoire, donc ça présente de l'intérêt réellement.
Et les vrais sujets sur les comptes ou sur les reportings, c'est quoi ? C'est l'avancement des travaux ? C'est les pertes à terminaison ? C'est quoi vos grands...
Les grands sujets, les grands risques, vous venez de les résumer, c'est effectivement l'avancement des travaux et les pertes à terminaison. Et puis après, on est sur un secteur d'activité qui vit pas mal de transformations sur le plan environnemental, puisque les normes évoluent. La crise du Covid favorise une prise de conscience dans ce domaine et très clairement, ça va faire évoluer nos métiers. Et ensuite, on est aussi sur des entreprises assez traditionnalistes dans la culture. Donc sur la filière DAF, on a de vrais enjeux de transformation par la digitalisation. Sur la digitalisation, on a commencé à digitaliser nos activités, mais on a plein d'enjeux encore et plein de défis dans ce domaine. Donc c'est aussi ça qui m'intéresse.
Oui, j'imagine.
J'aime accompagner le changement, donc ça tombait bien.
Charles.
Justement, je vais rebondir sur la question qui vient d'être posée, surtout votre réponse. Vous avez pas mal de projets en cours, justement, liés à la digitalisation, dématérialisation, montée en puissance de l'IA.
Oui.
Donc, ce qui fait une véritable évolution au sein du rôle de CFO, avec une dimension presque RH et d'accompagnement des équipes. Comment vous le vivez ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est un de mes moteurs, donc je le vis très bien, moi personnellement. Je pense que c'est un des gros enjeux d'évolution de la filière finance. On a longtemps promu des experts, et aujourd'hui ça ne suffit pas. J'encadre un certain nombre de directeurs financiers sur toute la France. Les enjeux de compétences relationnelles sont des enjeux extrêmement forts, et d'accompagnement du changement sont des enjeux extrêmement forts pour préparer l'avenir de nos fonctions. Donc pour moi, ça devient de plus en plus central dans le recrutement, dans la formation et dans l'accompagnement. C'est vraiment important.
Merci. Dernière question. Je crois que le 14 juin dernier, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis vous a attribué donc, à de Mathieu et ses partenaires le marché Prisme.
Oui, on en est très fiers.
Je pense.
Bravo.
Première, donc, équipement sportif innovant, pensé dans une logique inclusive, a priori une première en Europe. Ben, est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots sur ce projet, son impact ?
Surtout le côté inclusif, parce que c'est pas évident.
C'est un très beau projet qui s'inscrit dans le cadre des Jeux Olympiques et surtout des Jeux Paralympiques. Donc c'est une infrastructure de sport qui est vraiment dédiée au public handicapé, avec ce que ça peut signifier en termes de contraintes et d'accompagnement, et qui a été en plus qui est un très beau projet esthétiquement, donc on est très fiers, on a très envie de démarrer la construction de ce projet, puis en plus très content de ce que ça peut représenter aussi en termes de valeur. Donc ça correspond bien aux valeurs du groupe et ça fait quelques semaines qu'on s'en félicite effectivement. Mais c'est un projet qui va être du coup sur la partie intérieure en particulier aménagé pour répondre aux besoins des différents handicaps pour les personnes qui ont besoin effectivement plus de toucher parce qu'elles ne voient pas, des équipements qui sont à la bonne hauteur, etc. Donc c'est un aménagement intérieur qui est super intéressant et puis l'esthétique extérieure et je la trouve très sympa. C'est pas juste parce que mon groupe construit, c'est un peu dans l'esprit de la résille de béton du Musset, mais ça devrait donner quelque chose de tout à fait intéressant.
Et le côté inclusif, c'est ça, c'est pour les personnes handicapées ?
Tout à fait, c'est vraiment destiné aux Jeux Paralympiques.
D'accord.
Avec un très beau site.
Alors Marie, le plus beau métier du monde, c'est quoi ? C'est astronaute ou CFO ?
On sait tout. Effectivement, je rêvais des étoiles quand j'étais plus jeune.
Pourquoi vous ne l'avez pas fait ?
Parce que mes études ne m'ont pas amené là, et puis qu'on ne réalise pas tous ses rêves, c'est pas grave, on vit quand même des vies passionnantes.
Ouais, c'est vrai. Vous avez été marqué par, en tout cas très intéressé par les mémoires d'Obama.
Oui, je l'ai lu récemment, et c'est intéressant parce que les élections de président américain en général génèrent des fantasmes dans tous les sens du terme, et lire ses mémoires permet de replacer les choses à leur vrai niveau, à leur vraie place, et puis en même temps c'est toujours intéressant de lire les mémoires de grands dirigeants parce que vous intégrez ça dans l'histoire telle qu'elle s'est déroulée, et ça donne un éclairage qui est souvent assez... assez instructif.
Et pour finir, parlez-nous de la Polynésie et de l'île Reykjavik.
Vous allez
la prononciation lamentable.
Polynésien. J'ai eu la chance l'an dernier, avant d'intégrer de Mathieu, de partir fêter mon premier demi-siècle en Polynésie. Et on avait décidé d'aller découvrir les Australes, qui font partie des archipels les moins connus et les moins fréquentés, puisqu'on était à peu près une vingtaine de touristes par île. Donc c'était très sympa et c'était très authentique. Et c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à profiter, évidemment, des lagons. Les premiers jours de confinement, on les a passés sur le lagon de Reykjavik, et c'était
on n'a pas tous le même confinement.
Beaucoup plus agréable.
C'est sûr.
Il faut le reconnaître.
Merci Marie, merci également à vous Jean-Philippe et Charles. Fin de ce numéro de CFORadio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain 14h précise pour un nouvel invité.
L'invité de la semaine de CFORadio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.